Vatican News, le journal, il est 18h.
Il était visé depuis 7 ans par un mandat d'arrêt de la CPI accusé de crimes de guerre dans l'est de la RDC. Le chef de la branche radicale des FDLR a été tué la nuit dernière par l'armée congolaise. On y revient dès le début de ce journal. Résultat encore partiel en Israël, mais la liste bleu-blanc de Benny Gantz obtient un siège de plus que le Likoud de Benjamin Netanyahou à la Knesset. Avec qui pourrait-il gouverner? Nous retrouverons notre correspondant à Jérusalem. Pour la 4e fois en 4 ans, les Espagnols retourneront aux urnes le 10 novembre prochain. Le premier ministre Pedro Sanchez n'a pas obtenu les soutiens nécessaires à sa reconduction au pouvoir. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis enfin, le Premier ministre chinois est reçu ce mercredi par le président russe pour fêter le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux puissances. L'occasion de faire de bonnes affaires.
Le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Accusé d'avoir pris part au génocide rwandais contre les Tutsis en 1994 avant de fuir de l'autre côté de la frontière rwandaise dans l'est de la RDC, passe-qu'entré en rébellion contre le pouvoir de Kigali, les FDLR sont accusés d'avoir semé pendant des années la terreur contre les civils congolais, d'être à l'origine de trafic d'enfants ou de bois. Eh bien, ce mercredi, la rébellion rwandaise a perdu son chef suprême, tué pendant une opération de l'armée à 60 km de Goma. On retrouve sur place notre correspondant Augustin Mozangue.
Le chef rebelle FDLR Sylvestre Moudachoumouroi a été tué pendant l'assaut. Porteur d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis le 13 juillet 2012, le général Richard Kasonga, porte-parole des forces armées de la RDC cité par nos confrères de Jeune Afrique, a confirmé. Il a été neutralisé avec ce lieutenant par les forces armées. Son élimination est un signal fort pour les autres groupes de FDLR, car c'est bien lui qui s'était opposé en premier au rapatriement des FDLR dans leur pays d'origine, ajoute le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce groupe a été localisé et surpris dans le territoire de Rutshuru, en chef-lieu de Bwito, groupement à Katsiru, au sud de la Ruindi. Le communiqué de FRDC précise que ceci intervient alors que la RDC avait déjà répatrié dans leur pays les FDLR volontaires qui étaient regroupés à Kanyabayonga, Kisangani, Walungu et Ngenga et qui avaient émis le vœu de rentrer dans leur pays d'origine. Les forces armées de la RDC lancent un message dans le dernier paragraphe de ce communiqué demandant aux autres groupes rebelles de se rendre sans exigence. Dans les cas contraires, ils subiront la force du feu des FRDC. Goma, au Nord Kivu, Augustin Mossangué pour Radio Vatican.
Au Cameroun, un grand dialogue national a été convoqué par le président. Il se tiendra du 30 septembre au 4 octobre prochain pour résoudre la crise qui oppose depuis 2 ans des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité dans les régions anglophones. Mais ce dialogue pourra-t-il fonctionner en l'absence des chefs du MRC anglophone? Eh bien, le parti de l'opposant camerounais, Maurice Kamto, a exigé aujourd'hui la libération du leader emprisonné et de ses alliés en échange de sa participation au dialogue. En Algérie, les voitures, les autocars seront saisis des amendes infligées. Le chef d'état-major ordonne aux militaires aujourd'hui d'empêcher aux manifestants d'autres régions de se rendre à Alger à moins de 48 heures du rassemblement du vendredi. L'armée veut reprendre la main après des mois de contestation alors que le Parlement vient d'adopter et au pas de charge un nouveau dispositif législatif en vue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Une date annoncée le week-end dernier, un scrutin que rejette le mouvement de contestation. Deux descentes de police dans l'est et le sud du Caire. Aujourd'hui en Égypte, 9 djihadistes présumés ont été tués dans les fusillades. Parmi eux, un dirigeant du mouvement Liwa al-Taoura, la brigade de la révolution, qui a revendiqué des attaques meurtrières contre la police et l'armée égyptienne ces dernières années. Impasse politique en Israël après les législatives d'hier. Plus de 92% des bulletins ont été dépouillés. Bilan des courses sur les 120 sièges de la Knesset. Le Likoud, le parti du Premier ministre sortant, obtient 31 sièges contre 32 pour la formation centriste bleu-blanc de Benny Gantz. Ce dernier souhaiterait gouverner avec la liste unifiée des partis arabes et les russophones David Gur-Lieberman. Mais c'est loin d'être gagné. Les explications de Serge Ronen.
Entre la liste arabe et le parti russophone de Lieberman circule un fort courant d'animosité. Lieberman n'hésite pas à qualifier la liste arabe de 5e colonne et la minorité arabe d'Israël voit dans le parti russophone un élément majeur dans la colonisation des territoires occupés de Cisjordanie. En revanche, le parti travailliste, même diminué et avec un tout petit nombre de députés, se présente comme l'allié naturel du parti centriste bleu-blanc. Mais là aussi, il pourrait y avoir des surprises. Certains dirigeants travaillistes, de crainte de voir leur parti disparaître dans la masse centriste, préféreraient une alliance avec le Likoud. Une telle alliance permettrait aux travaillistes d'obtenir plusieurs postes ministériels et même la vice-présidence du gouvernement. Quoi qu'il en soit, et malgré les difficultés, le seul cas de figure qui semble réaliste est un partage de pouvoir entre le Likoud et les centristes bleu-blanc. Serge Ronen, Jérusalem, pour Radio Vatican.
L'Arabie Saoudite divulgue les résultats de son enquête sur les attaques de samedi contre plusieurs de ses installations pétrolières. Des débris de drones, de missiles de croisière ont été dévoilés. Le royaume saoudien parle de preuves incontestables de l'implication de l'Iran. Ces révélations ont été faites alors que le chef de la diplomatie américaine est attendu à Riyad pour discuter d'une éventuelle riposte aux attaques. Les États-Unis qui ont déjà annoncé un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran. Offrez-moi une majorité confortable au Parlement au nom de la stabilité. C'est en substance le message du socialiste Pedro Sanchez ce mercredi en Espagne. Le Premier ministre sortant repart en campagne et sur fond d'exaspération. Ces cinq derniers mois, il n'est pas parvenu à former de gouvernement. Le Parlement sera donc dissous lundi prochain et pour la quatrième fois en quatre ans, les Espagnols retourneront aux urnes. Bernard Bessière est spécialiste de l'Espagne à l'université d'Aix-Marseille. Il nous explique pourquoi les pourparlers politiques n'ont pas fonctionné.
L'actuel président du gouvernement, Pedro Sanchez, donc mène des consultations pour arriver à une majorité. Qui consulte qui? Eh bien le roi, c'est un arbitre. Il essaie de voir s'il y a une majorité à gauche ou une majorité à droite. Actuellement, le parti qui est en tête au Congresso, le Congresso c'est la Chambre des députés, c'est le Parti Socialiste qui a 123 députés. Le problème, c'est que la majorité est à 176, donc tout le problème consiste à passer de 123 à 176. Pour ça, il faut une coalition et le Parti Socialiste, de par sa position politique, c'est la gauche classique, est prise en tenaille entre sa gauche et sa droite. Et devant l'impossibilité de trouver une majorité réelle, puisque le Parti Socialiste est tout seul, il a été abandonné par Unidas Podemos, qui est l'extrême gauche, et d'un autre côté, la droite n'est pas capable de faire coalition totale. Conformément à la Constitution, le roi a prononcé la dissolution de la Chambre et convocation d'élections. Et aussitôt, donc Sanchez, le socialiste, a choisi la date du 10 novembre. Il va y avoir donc deux élections en 7 mois, c'est la 4e élection en 4 ans, c'est du jamais vu.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. À l'issue de sa catéchèse, le pape, aujourd'hui, lors de l'audience générale, place Saint-Pierre, a demandé aux fidèles de prier pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour leurs familles, leurs proches, celles qui prennent soin d'elles. Il appelle à prier aussi pour la conversion des cœurs, car a-t-il rappelé, souvent les malades d'Alzheimer sont victimes de violences, de mauvais traitements, d'abus qui piétinent la dignité. Un appel lancé 3 jours avant la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. La Russie accueille le premier ministre chinois. Aujourd'hui, Li Keqiang doit s'entretenir avec le président Vladimir Poutine, l'occasion pour les deux pays d'affirmer le renforcement de leurs relations. D'ici 2024, les deux pays comptent doubler la valeur de leurs échanges. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin est placé sous le signe de l'ouverture ou du moins de l'augmentation des échanges. Depuis 9 ans, la Chine est en effet le premier partenaire commercial de la Russie et l'an dernier, les échanges entre les deux pays ont franchi la barre des 100 milliards de dollars. Après avoir rencontré son homologue chinois, Li Keqiang, le premier ministre russe Dmitri Medvedev s'est félicité de la coopération pragmatique et globale existant entre les deux pays, axée non seulement sur des secteurs traditionnels comme l'énergie, mais aussi sur de nouveaux domaines comme le commerce électronique ou l'innovation technologique. Les deux hommes se sont fixés pour objectif de voir les échanges entre leurs pays passer à 200 milliards de dollars d'ici 2024, en facilitant l'accès aux investissements et aux marchés des deux pays. Face aux incertitudes économiques et politiques croissantes, Li Keqiang a souligné que la confiance renforcée entre Moscou et Pékin enverrait un signal positif de prospérité et de stabilité sur les plans régional et mondial. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
La Russie qui a arrêté 161 pêcheurs nord-coréens se trouvant illégalement dans ses eaux territoriales en mer du Japon. Pour les interpeller, Moscou n'a pas lésiné. Des pêcheurs, des gardes-côtes, des avions et les forces spéciales. Il faut dire qu'hier, 3 gardes-côtes russes ont été blessés lors d'une attaque lancée par les pêcheurs surpris d'avoir été découverts. Et puis enfin au Japon, 8 ans et demi après la catastrophe nucléaire de Fukushima, on attend demain matin le verdict du tribunal de Tokyo pour les 3 anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Ils sont accusés de négligence ayant entraîné la mort, ils encourent tous de la prison ferme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre écoute attentive et surtout merci de votre fidélité. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr de la Curie et du pape François est à retrouver demain matin lors de notre journal de 8h30. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente soirée.